Vous écoutez Radio Tintouin, la radio de Vierzon et de ses environs.
Oui, bah écoute, je demande pardon à David de lui couper la parole. C'est l'émission ce matin. Tintouin fait le lien avec nous, donc on a plusieurs invités. D'abord, il y a Joël qui va m'assister, j'espère, de bonne façon d'ailleurs.
Avec grand plaisir. Bonjour Jean-Luc, Joël. Bonjour à tous nos auditeurs.
Et
bonjour.
Puis Mathéus qui vient nous parler de breakdance, comme d'habitude.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien.
Ouais, parle bien près du micro, c'est bon.
Allô.
Et puis alors, nous avons avec nous Gilles Magréau.
Bonjour à tous.
Bonjour Gilles.
Bonjour.
Bon, j'espérais voir arriver le libraire, mais il n'a pas pu se décrocher, il n'a pas pu venir. Donc tu seras tout seul à nous parler de livres ce matin. Bon, tu as un livre que tu viens de faire, hein, dont on va donc parler après la première musique. Là, on va commencer à se couper un petit peu la conversation avec un petit peu de musical. Ce n'est rien, c'est tout vieux ça. Vous rappelez ?
Ah oui.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Il y a mille coquilles de noix sur ton chemin. C'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire d'aile, en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle, et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça prévient comme un bateau qui revient. Et soudain, il y a mille sirènes de joie sur ton chemin qui résonnent et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile, en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle, et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. De joie sur ton chemin qui résonne et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra tire d'aile, en rapportant le duvet qui était son lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle, et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan.
Plonger, hein.
Attention, les micros sont branchés. Oui, ben ce n'est rien, une vieille chanson. Hein. Ben moi, je suis pas trop sur les trucs très 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 récents, donc j'aime bien les chansons d'un certain âge. Et ce n'était rien, mais bon, on va parler un petit peu puisque ça parlait de nostalgie. On va parler avec Gilles Magréau. Bonjour Gilles, bonjour. Disons.
Bonjour Jean-Luc.
Alors ouais, tu viens de terminer ton livre.
Oui, le premier tome. En fait.
On s'était promis que tu reviendras à la radio quand il serait terminé. Et donc, te voilà. J'ai eu le temps de le lire depuis lundi. Là, j'ai plongé dans les arcanes de l'histoire vierzonaise. J'ai appris plein de choses, d'ailleurs. Toi aussi, d'ailleurs, sûrement, avant de faire ce livre.
Tout à fait, oui.
Alors, ouais, comment s'est passée ton enquête ? Où ça commence, toute cette histoire ?
Ça commence quand je reviens vers mon théâtre MacNab, à l'époque. Je prends la rue de Bournou, je tourne là où se trouve l'EHPAD de Porte de Sologne, et je vois une plaque où est inscrit Marc l'Archevêque, porcelainier vierzonais. Immédiatement, je cherche l'entreprise de porcelaine. Je ne vois aucune entreprise dans la rue. Alors, j'étais tout à fait étonné. J'ai eu l'occasion de m'en ouvrir auprès d'Alain Leclerc, l'incontournable archiviste de Vierzon, qui me dit « Ah, oh, tu ne connais pas Marc l'Archevêque ? Ah, oh, ben Léo, je vais te raconter l'histoire. » Et ce qu'il m'a raconté m'a réellement donné envie d'en parler, de remettre à l'ordre du jour toute l'activité professionnelle de Marc l'Archevêque, qui est en plus multiple, parce que ce n'était pas uniquement un chevalier d'industrie, ça a été également un lieutenant de pompiers de Vierzon, quelqu'un qui s'est occupé de la défense passive pendant la guerre, qui a créé la section porcelaine à ce qu'on appelait l'ENP, c'est-à-dire l'école normale professionnelle, qui est devenue le lycée Henri Brisson. C'est quelqu'un qui a eu une activité pluridisciplinaire, tout à fait étonnante, au service de ses passions.
Est-ce une biographie ?
Alors, ça n'est pas une biographie, c'est ce que j'appelle une biographie romancée, puisque j'ai eu l'idée de le faire interviewer par un jeune journaliste qui, à l'époque, est encore un petit correspondant sportif du Berry Républicain, qui s'appelle André Perrault, et qui, avec son vélomoteur, parcourait tout le département pour découvrir les activités sportives et en rendre compte. Et ce petit correspondant sportif voulait devenir journaliste. Nous sommes au lendemain de la guerre, en 1950. Et évidemment, il n'avait pas fait l'école de journalisme de Lille. Donc il s'est dit, je vais écrire des articles pour prouver à mon rédacteur en chef, à mon directeur, que je suis journaliste. Et c'est ce qui s'est passé, car en 1952, André Perrault a été admis en tant que journaliste au Berry Républicain, et il est très vite devenu le directeur de l'agence de Vierzon, qu'il est resté pendant près de 40 ans, enfin voilà, jusqu'à sa retraite. Et j'ai eu la chance de le connaître au printemps de Bourges. En 83 ou 4, il était déjà en retraite, et comme il était très très connu dans le milieu professionnel, il avait encore sa carte d'accréditation, je l'ai rencontré à cette occasion-là, et j'avais eu l'envie de continuer à découvrir ce personnage qui m'avait paru très familier, très à l'écoute des autres, et voilà, j'en ai fait un des héros de l'histoire. En fait, Bonjour Monsieur Marc, c'est des interviews qui se passent entre donc André Perrault et Marc l'Archevêque.
Et sur quelle période ?
Alors, il raconte toute sa vie. Il est né en 1871, Marc l'Archevêque, et il raconte toute sa vie par épisode. Tous les 10 ans, il y a un nouvel épisode, jusqu'en 1950, qui est en juin 1950, date de son décès.
Donc, alors, il y aura une suite.
Il y aura une suite. Hein,
oui, il y aura un tome 2.
Ce que disait Joël, là.
On est tous les deux.
Tu nous as prévenu qu'il y aurait un tome 2.
Hein. Avec exactement. Jean-Luc, on est
à l'avant. On attend avec impatience la suite.
Et ben exactement. Je me suis rendu compte que la dernière secrétaire de Marc l'Archevêque, la secrétaire comptable, s'appelait Jeannette Poitrenaud en 1950. Or, Jeannette Poitrenaud est quelqu'un que j'ai rencontré, moi, quand je suis arrivé à Vierzon, avec le groupe théâtral lyrique vierzonais, le GTLV. Elle était soprano dans cet organisme-là, et elle était donc secrétaire. Donc, voilà pourquoi ça va s'appeler la dactylo soprano. Voilà, et ça ira de 1950 à 1999, au réveillon de l'an 2000. Réveillon à Vierzon qui s'appelait Réveillon l'an 2000, voilà.
Vous l'avez rencontré, donc
Bien sûr, je l'ai rencontré plusieurs fois. Je la rencontre régulièrement en ce moment. Et c'est probablement son fils, Laurent Poitrenaud, qui est un comédien connu, qui écrira, lui, de son côté, la préface.
Parfait. Préface
pour Marc l'Archevêque. Bonjour Monsieur Marc, c'est le titre du livre. Bonjour Monsieur Marc, la préface a été écrite par l'arrière-petit-fils de Marc l'Archevêque Éric l'archevêque.
Alors, je croyais que c'était son petit-fils, c'est son arrière-petit-fils.
Arrière-petit-fils, bien sûr.
Wow, oui, ça va loin. Et donc, Marc l'archevêque a donc son arrière-petit-fils qui est revenu à Vierzon, on va le dire comme ça, et qui s'occupe aujourd'hui d'Algosup, entre autres. Entre autres choses, parce que, bon, il essaie de favoriser un peu cette ville sur laquelle il a ses racines, en fait.
Mais il met en avant à nouveau la défense de l'entrepreneuriat. Voilà.
Il a bien réussi dans la crypto-monnaie, donc il en fait profiter.
Co-fondateur de Ledger, et donc il fait profiter de tous ses contacts de la ville de Vierzon. Oui.
Alors, moi, ce que j'ai remarqué, bon, c'est ton style, déjà. Tu fais donc ça sous forme de reportage, hein, c'est le livre. Oui. Bon, où est la partie authentique dans tout ça? Parce qu'on peut se poser la question. Est-ce que tu as énormément romancé ou est-ce que les faits sont réels?
Je l'ai fait relire à Alain Leclerc.
Oui.
Qui m'a certifié que je n'avais fait aucune erreur dans la biographie elle-même.
D'accord.
C'est-à-dire que les dates sont réelles, ce qui s'est passé, c'est tout est vrai. Mais c'est effectivement complètement romancé, bien sûr.
Alors, ce qui est romancé, c'est donc la relation entre ce journaliste et Marc l'archevêque.
Voilà.
Mais les faits dont il est question dans ce livre, parce que moi j'ai appris plein de choses sur la façon dont des capitaines d'industrie s'intéressaient au bien-être de leurs ouvriers. C'était pas très courant à l'époque. Hein.
C'est une tradition de paternalisme social qui nous vient de l'éducation jésuite.
Oui, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai découvert là-dedans. J'ai découvert qu'il y avait quand même un conflit, appelons-le comme ça, une tension entre deux courants éducatifs, en fait, hein, mais qui vont se retrouver quand même tous ensemble pour arriver à créer la section céramique à Vierzon. Donc on va se retrouver avec des gens de gauche, de très à gauche, qui vont se mettre d'accord avec l'archevêque pour créer cette section.
Tout à fait. C'était un passionné, Marc l'archevêque, quelqu'un qui était sans cesse en train d'améliorer ses découvertes, de réinventer tous les jours. Il avait un laboratoire extraordinaire, il y passait un temps phénoménal, et les gens ont bien été obligés de reconnaître ses extrêmes compétences. Et c'est vrai.
À l'époque, les conditions de travail étaient très difficiles, en plus.
Oui, mais lui, déjà à l'époque, était... entre guillemets, au service de ses ouvriers. Il ne disait pas « je suis votre patron, vous êtes mes ouvriers, je suis votre directeur technique, vous êtes mes collaborateurs ».
Il était précurseur. Ça change déjà,
oui. Et au tout début du XXe siècle, il avait déjà créé l'intéressement au bénéfice de l'entreprise.
La participation. On a reparlé de Gaulle des dizaines.
Ils n'ont rien inventé, effectivement. Ouais. Ils n'ont rien inventé parce que déjà à l'époque, il avait créé ça. Alors à la stupéfaction totale, évidemment, des syndicats qui n'en revenaient pas que d'un seul coup. Et le patron partage les bénéfices avec ses ouvriers.
Et c'est le scandale des autres patrons autour qui disaient, mais il est un petit peu
fou. Ah oui, il est fou, complètement.
Il est complètement fou. Et en même temps, bon, j'apprends grâce à ce livre, bon, j'apprends plein de choses, qu'en 5 ans, un ouvrier pouvait se payer sa maison.
Exactement.
C'était énorme.
Étonnant.
Et c'est énorme quand on réfléchit aujourd'hui à ce que ça représente. Il leur avait appris à épargner, il leur avait encouragé les jardins ouvriers. Enfin, on va en reparler après. Une petite musique parce qu'on va changer un petit peu. Les honnêtes gens, je ne sais même pas ce que c'est, j'ai juste le titre. On va voir ce qui sort derrière et puis on reprendra après un peu de musique.
Volontiers.
Prêt à tous les moyens pour atteindre ses fins. Il trahissait les humbles et flattait les puissants. Il fit réprimer des émeutes de la faim, sans aucun regret dans la violence et le sang, de toutes les idées, de tous les ralliements, tous les reniements, toutes les compromissions. Il obtint un portefeuille au gouvernement. Il reçut les honneurs et les décorations. Il reçut les honneurs et les décorations. On fleurit les statues des hommes sans scrupules, des types assoiffés de pouvoir et d'argent. L'histoire ne retient que le nom des crapules. Pas de postérité pour les honnêtes gens. Pas de postérité pour les honnêtes gens. Il passa par les armes au nom de la patrie. Ceux qui fuyaient l'enfer et retournaient chez eux. Il mata la révolte et la mutinerie. Quand on fait l'omelette, on doit casser les œufs. C'est inlassablement qu'il fit livrer bataille. De son état-major à l'abri du canon, menant les hommes comme on mène du bétail, on fit baptiser les avenues à son nom. On fit baptiser les avenues à son nom. On fleurit les statues des hommes sans scrupules, des types assoiffés de pouvoir et d'argent. L'histoire ne retient que le nom des crapules, pas de postérité pour les honnêtes gens. Pas de postérité pour les honnêtes gens. Ils étaient ouvriers ou simples paysans, enlisés dans la boue et grelottant de froid. Ils entendaient les râles des agonisants. Ils attendaient l'assaut paralysé d'effroi. On leur parlait d'honneur, de glorieux sacrifices, tandis que devant eux, pris dans les barbelés, pourrissait le cadavre d'un père ou d'un fils. Ils dorment anonymes sous les champs de blé. Ils dorment anonymes sous les champs de blé. On fleurit les statues des hommes sans scrupules, des types assoiffés de pouvoir et d'argent. L'histoire ne retient que le nom des crapules. Pas de postérité pour les honnêtes gens. Pas de postérité pour les honnêtes gens.
Alors, pas de postérité pour les honnêtes gens, j'entends dire. Bon, j'ai même pas écouté, là, parce qu'on parle, on parle énormément hors micro, hein, faut l'avouer. Bon, on va essayer de restituer un peu tout ce qu'on a dit en dehors, pendant que la musique passait. Mais bon, moi je suis étonné de toute cette histoire, parce que c'est pas du tout le schéma habituel de ce que j'ai entendu dire sur le combat social et tout ça. Il s'est passé quelque chose à Vierzon, qui est presque du domaine du laboratoire. On a vécu des choses incroyables. Alors Gilles, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? J'apprends par exemple qu'un ouvrier, en quelques années, pouvait s'acheter sa maison, avec les salaires qu'il avait, parce qu'ils étaient très bien payés quand même, les gens. Hein.
Oui, Marc Larchevêque considérait que l'entreprise était sa propre famille, et qu'il n'avait pas des ouvriers qui venaient travailler uniquement pour lui, mais qui étaient ses enfants, qu'il fallait qu'il élève, qu'il éduque, qu'il forme, et qui puisse être les meilleurs possibles dans une famille unie, respectueuse, etc. Donc effectivement, le cabaret était mal vu, par exemple, parce que on y buvait de l'alcool et on écoutait surtout les discours socialo-communistes qui commençaient à faire florès à l'époque. Et lui se méfiait énormément de ça. Pour lui, le syndicat devait être quelqu'un qui était son collaborateur, qui aidait au mieux vivre de l'entreprise, qui permettait de faire des progrès au bénéfice de tout le monde. L'intérêt, lorsqu'il a créé en 1907 la participation aux bénéfices,
ça c'est
les syndicats ont les bras qui sont tombés et qui ont été obligés de le remercier quand même officiellement de cette belle initiative, parce qu'il partageait ses bénéfices entre lui-même, ses ouvriers, ses employés, et il avait fait toute une série de pourcentages par rapport au si le bénéfice était de 20%, il y avait tel pourcentage, 30%, tel pourcentage, etc. Et ça l'a complètement surpris, l'ensemble.
C'est étonnant, d'ailleurs, les chiffres, bon là, on les a pas, il faudrait reprendre le livre, mais en fait, plus il y avait de bénéfices, plus il y avait de possibilités de participation des ouvriers.
Voilà, la part du patron
baissait. Le patron baissait, mais les ouvriers
gagnaient davantage.
Ouais. Et puis, donc, les salaires étaient quand même très élevés, hein.
pour l'époque.
Bah, oui, Alain Leclerc raconte que Marc Larchevêque payait deux fois plus cher ses ouvriers que la concurrence. C'est-à-dire que lorsque la concurrence donnait 50 centimes, lui donnait un franc. Carrément.
Donc il avait les meilleurs aussi.
Ah ben, il y avait plus,
tous les membres travaillaient là-bas. Ou quoi.
Exactement. Les employés se battaient pour venir travailler chez Marc Larchevêque, c'est évident.
Je crois que les ouvriers pouvaient aussi rapporter des pièces qu'ils confectionnaient. Parce que j'ai rencontré quelqu'un qui
c'est ce qu'on appelle les pièces bousillées,
ouais,
ça.
Ouais, oui, oui, une ouvrière qui est pensionnaire à l'EHPAD Ambroise Croizat. Et elle a fait don de toutes ces pièces que son mari a récupérées, quoi, en fait, en quelque sorte, aux amis du musée de Vierzon.
C'est les pièces qui avaient des petits défauts, les pièces qu'on appelait bousillées. À ce propos, Marc Larchevêque a été victime en 1942, si ma mémoire ne me fait pas défaut, d'un vol important de pièces qui ont servi au marché noir. Et ça l'a complètement désarmé, c'est le cas de le dire, parce que pour lui, la confiance qu'il portait à son personnel en a pris un sacré coup. Effectivement, une ouvrière a été prise, elle promenait des grands sacs. Et il y avait
la main dans le sac.
Plus de 50 assiettes. Et la police a fait une perquisition chez elle et ils ont trouvé des assiettes, des bols, des soucoupes, des tasses qui servaient à faire du marché noir. C'est-à-dire des pièces qui, elles, n'étaient pas bousillées, donc qui n'avaient aucun défaut, mais qui étaient sorties en fraude et revendues de la main à la main à l'époque du marché noir. Alors ça a été un coup terrible pour la confiance qu'il portait en son personnel, quoi.
Oui, il pensait être dans une famille et là, il s'est rendu compte qu'il y avait des petits intérêts personnels.
Voilà.
Qui séparaient. Non, je pense que ça a été décevant pour lui, vu tout le travail qu'il avait fait là-dessus. Donc, on parle de participation. On pense aussi à tous les progrès faits dans l'entreprise elle-même. Hein, parce que bon, il faut le savoir, aujourd'hui, on ne s'en rend pas trop compte, mais à l'époque, il y avait une poussière phénoménale.
Oui.
Et donc, les gens attrapaient ce qu'on appelle la silicose, c'est-à-dire la maladie des mineurs, hein, qui remplit les poumons de produits.
De particules fines, quoi. Oui.
Et qui ne vont pas s'en aller. Oui. Et bon, les gens mouraient de la silicose. Moi, j'en ai connu plusieurs à Vierzon qui venaient du Nord et qui sont morts de la silicose.
Bah, il a été le premier à Vierzon à créer des extracteurs de poussière. C'est-à-dire qu'il a créé dans son entreprise des extracteurs qui poussait la poussière à l'extérieur et qui permettait aux gens de respirer mieux, effectivement. Parce que on toussait énormément à cette époque-là. Vous voyez, la poussière était l'ennemi du porcelainier, tout comme le bruit était l'ennemi numéro un
des forgerons.
Tout à fait.
Mais et là-dedans, bon, je pense, parce qu'il a énormément, il s'est préoccupé du bien-être. Bon. Ça aidait l'entreprise à grandir, hein, à se progresser.
Mais il le faisait pour
Mais il le faisait aussi. Bon, justement, on parlait de la poussière. La poussière faisait que les gens buvaient beaucoup.
Exactement.
Et ne buvaient pas que de l'eau.
Tout à fait. C'est vrai,
et
c'est
donc,
vrai.
Et donc, il s'est mis à se préoccuper de l'alcoolisme dans l'usine. Comment le combattre?
Exactement.
Et une idée qu'il a eue, moi, je n'imaginais pas que c'était ça, c'est les jardins ouvriers.
Alors ça, c'est autre chose à nouveau. Les jardins ouvriers, c'est une manière de créer de l'autonomie familiale.
Et en même temps, d'empêcher que les gens finissent
et
la journée
quand bistro. On s'occupe à jardiner et à faire pousser des pommes de terre, et on n'a pas l'envie d'aller au cabaret, effectivement. Mm-hmm. Donc, il poussait les gens à avoir des jardins ouvriers. La famille, de cette manière-là, bénéficiait de légumes frais. Donc, il y avait une volonté de mieux se nourrir de façon plus saine, d'une part, et puis de permettre aux gens de rester dans le cocon familial et de ne pas aller traîner à droite et à gauche.
Et il a créé une caisse d'épargne, on pourrait dire ça comme ça.
Il a créé des caisses d'épargne, des caisses de secours. Il avait créé dans son entreprise une salle des fêtes, une bibliothèque. Je dis là, les douches, un vestiaire avec douche au début du XXe siècle, les gens n'avaient pas l'eau courante chez eux. Et ils venaient là et ils pouvaient prendre une douche après le travail. Enfin, c'était un rêve éveillé, quoi. C'était tout à fait étonnant, les progrès qui ont été permis grâce aux activités de Marc Larchevêque.
Alors, Marc Larchevêque qui a pris donc l'entreprise de son père qui était en faillite.
Oui.
Donc, il a démarré avec moins que rien, on va dire. On peut le dire, vraiment. Il a dû faire un emprunt de 70 000 francs de l'époque.
Ouais, or, 70 000 francs or.
Alors, bon, là, c'était de sa cagnotte à lui. Mais dès qu'il a commencé à gagner, il s'est rendu compte qu'il était un peu redevable à tous ceux qui travaillaient avec lui dans l'entreprise, puisque c'est comme ça qu'il a développé tout ce qu'on vient de dire là, sur la vision sociale de son travail de patron.
Exactement, exactement.
Alors c'est peut-être quelque chose qui se perd un petit peu aujourd'hui dans les très grosses entreprises, non ?
On a plus la même analyse des choses.
L'époque est différente, complètement différente.
Tout à fait, tout à fait. Ouais.
Alors bon, moi je suis plutôt d'histoire protestante et je sais qu'il y a eu, c'est toute une époque, hein, le début de l'industrie a obligé les gens qui étaient croyants à l'époque à se poser des questions qu'ils ne s'étaient jamais posées avant, puisque les traditions étaient là, puis tout tournait à peu près habituellement. Et donc les industriels en Suisse en particulier, je sais que beaucoup de protestants ont eu à ce moment-là ce qu'on a appelé une lecture sociale de l'évangile, qu'on va retrouver un peu dans l'histoire de Marc l'archevêque avec les jésuites. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, bon, quel est notre devoir vis-à-vis des autres ? Et non pas comment gagner plus d'argent, ce qui est devenu un petit peu le but après aux États-Unis en particulier, où le calvinisme a un petit peu oublié toute cette lecture pratique. Et donc on se retrouve avec des ouvriers qui ont une maison individuelle. Je remarquais le quartier des Échelles, et j'avais entendu dire à l'époque, alors je sais plus où, parce que je sais qu'Alain Leclerc m'avait un peu guidé dans ma recherche historique sur Vierzon, que les quartiers des Échelles avaient été conçus pour que les parents ne se trouvent pas dans la même pièce que les enfants.
Exactement.
Et donc, en fait, l'échelle servait à monter dans la chambre des parents le soir, les enfants dormant en bas dans la pièce qui était chauffée, d'ailleurs, puisque c'était là où il y avait la cuisinière, là aussi. Et donc, il y avait aussi un lavoir intérieur. Donc, les femmes pouvaient travailler avec de l'eau chaude et ne pas se geler les doigts dans la rivière, sauf pour le rinçage, hein, bien entendu, où là, il y avait encore les lavoirs qui se passaient partout. Mais toute cette réflexion est faite par les patrons qui voulaient voir comment les gens pouvaient arriver à se développer. Et d'ailleurs, des jeunes étudiants, des jeunes élèves d'école ont été envoyés vers des hautes études quand on les a vus, qui étaient doués à l'époque. C'était cette possibilité de changer complètement de classe sociale. Avec, moi, je suis étonné de ça. C'est qu'en fait, il a été ami quand même avec des grandes personnalités de gauche à Vierzon.
Bien sûr, oui. Mais qui reconnaissait qu'il ne travaillait pas uniquement que pour lui, mais qu'au contraire, il mettait ses connaissances au service de l'ensemble de ses collaborateurs. Mmh. Il a toujours eu cette activité-là. Et c'est très étrange parce que Marc l'archevêque, vis-à-vis de sa propre famille, était un personnage très renfermé sur lui-même, qui n'ouvrait pas les bras facilement à ses petits-enfants, par exemple. Et c'est quelqu'un qui, vis-à-vis de son épouse, n'était pas extrêmement expansif non plus. Et par contre, vis-à-vis de son personnel, il était quelqu'un qui
s'était refabriqué une famille, peut-être, oui.
Bah, c'est tout à fait étonnant. C'est très très étrange, effectivement, comme comportement. Lors de son enterrement, on a toutes sortes de personnes qui ont suivi ses obsèques, y compris des anciens déportés. Alors qu'on aurait pu se dire, ce personnage, pendant la guerre, a été un peu collaborateur, donc il aurait pu être honni par les résistants. Pas du tout, au contraire.
C'était en quelle année ?
Il est mort en 50.
En 50.
Et donc...
Il a passé une guerre, c'était un petit peu son éducation catho, il s'est retrouvé du côté de Pétain, hein, si on peut le dire comme ça.
Du côté de l'ordre, bien entendu. Voilà, oui. Il a respecté l'ordre, la légalité. Quoi.
L'usine s'est arrêtée quand ?
Elle a été détruite au début des années 80, je crois. Parce que son fils avait reconstruit une usine à La Motte-Beuvron.
D'accord.
Qui, elle, était beaucoup plus fonctionnelle. Elle était de plein pied. Parce que là, les ouvriers passaient leur temps à monter et descendre des escaliers. C'était incroyable. Il y avait 7 niveaux.
Carrément ?
Oui, c'était un truc mais complètement dingue. Alors que l'usine que son fils a faite à La Motte-Beuvron était une usine de plein pied qui permettait des gains de temps considérables. Et de fatigue également.
Alors son fils donc a repris l'entreprise. Je résume, hein, parce qu'on va pas faire tout le livre là aujourd'hui. Il a repris l'entreprise, mais par contre il a pas repris l'idée de la participation, d'après ce que j'ai compris.
Non.
Ça s'est arrêté. L'expérience s'est arrêtée quand le fils a repris,
exactement,
parce que lui pensait plus aux intérêts de l'entreprise que ceux des ouvriers.
Il voulait développer l'exportation. Il voulait développer une autre manière effectivement d'accroître ses gains. Ça ne passait plus par l'intéressement du personnel. personnel.
Autre temps, autre mœurs.
Exactement. Exactement. Mais puis, il a laissé faire parce qu'il a été respectueux du fait qu'il avait donné les rênes de l'entreprise.
Le paternalisme du début de siècle, il y a eu quelques... Il y a eu Michelin, il y a eu Schneider, comme on a dit, oui, en antenne. Mais,
Boussac ça, également, oui.
Ça s'est vraiment perdu. Quoi.
Tout à fait. Ben, c'est le 19e siècle a été extrêmement révolutionnaire en matière d'évolution sociale. Puisque c'était le début de tout l'exode rural. Avant le 19e siècle, les gens étaient essentiellement dans les campagnes et avaient une autonomie de gestion qui leur était propre. Alors que là, venant dans les villes pour se mettre au service des entreprises, il y a eu un bouleversement complet de l'échelle sociale. Et moi, ça m'intéresse beaucoup de voir comment ces choses-là ont évolué.
Et puis voir que Vierzon était en fait un petit peu une ville laboratoire, on pourrait presque dire là-dessus. Il s'est passé quelque chose qui ne se passait pas dans toutes les villes.
Hein. C'est vrai.
Et donc là, dans un petit niveau, hein, c'était une entreprise de 150 personnes, je crois. Oui. Mais où il s'est passé quelque chose. Bon, on va couper encore. Hein. On va voir les Pink Floyd qui vont à The Wall. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'école là encore. Hein.
We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Les Pink Floyd, ben, c'est pas tout neuf hein, ça non plus, hein, mais bon, c'est quand même super bien. Voilà, bon, on en revient à nos moutons, c'est-à-dire à Marc Larchevêque et au livre que Gilles Magréau vient de faire. Et donc, Gilles, tu dois faire une dédicace bientôt à propos de ce livre.
Oui, je vais faire une dédicace le samedi 9 novembre.
C'est bientôt, on en reparlera.
Voilà, on en reparlera, mais c'est toute la journée de 10h à 18h, donc je serai présent à la librairie Le Grand Maulne, avenue de la République.
Notre nouvelle librairie de Vierzon, on espérait avoir Monsieur Desmarets ce matin, mais bon, il n'arrivait pas à se décrocher.
Et le livre est déjà dans les rayons ?
Il va l'être d'ici un quart d'heure.
Enfin, voilà, ah oui. Le temps de le poser.
Je lui amène à 10 heures. Là.
Donc voilà. les auditeurs sauront voilà. qu'il y a ce livre qui voilà, s'approche. Il sera là-bas. Là, oui. bientôt. Tout à fait.
Et ils pourront échanger avec vous donc, toute la journée.
Ils pourront échanger donc, le samedi 9 novembre de 10h à 18h.
Le rendez-vous
voilà.
est pris.
Voilà, le rendez-vous est pris. J'espère d'ailleurs que Éric Larchevêque viendra faire un tour ce jour-là. Parce que lui, il est à Algosup en même temps. Il reçoit les parents d'élèves. Mais il va pouvoir se libérer un certain temps pour venir à la librairie, effectivement, faire acte de présence.
On rappelle que voilà. c'est lui qui a préfacé le livre.
C'est lui qui a fait la préface du livre, oui. Puisque c'est son arrière-petit-fils.
Voilà. Écoutez, merci beaucoup.
Un livre de 300 pages, donc.
Voilà, tout à fait.
Et donc, quand on conseille, enfin, moi, je l'ai lu, bon, il m'a passionné, parce que c'est tout un aspect de l'histoire vierzonaise que je ne connaissais
exactement,
pas.
Exactement.
Et donc, c'est très, très bien là-dessus.
C'est en partie pour ça que je l'ai écrit.
Ouais. Ça peut intéresser d'autres personnes que les vierzonais, d'ailleurs.
Ah oui, bien sûr mais déjà, là, tout. Bon, il est révolutionnaire à plein de niveaux, ce Marc Larchevêque.
Et puis, après, on peut compléter par une visite au musée de Vierzon, bien sûr, où il y a toutes les créations
tout à fait,
du
tout
début
à fait.
Du siècle.
Exactement.
Voilà. Alors oui, il faut savoir qu'à l'époque, bon, c'était quand même le savoir-faire était caché. Sèvres ne voulait pas qu'on apprenne comment leur technique.
Exactement.
Et que donc, Marc Larchevêque, il a dû tout réinventer, en fait, hein, tout retrouver.
Tout à fait.
Et puis là-dedans, arriver à faire bon, ce qui a été à un moment, les vierzons, ça, on les retrouve sur des brocantes, des fois, ça a de la réputation. Hein.
Tout à fait.
Voilà, voilà. Et ben merci Gilles d'être venu, parce que là on va passer à complètement autre chose. Comme j'aime bien moi aussi quand on fait les émissions, on passe pas du coq à l'âne, mais de voilà, on va passer d'une culture au sport carrément, puisque c'est une discipline sportive aujourd'hui, la breakdance. Donc
c'est
Mathéus.
Ça. Bonjour à tous.
Bon, rebonjour.
Comment ça va?
Et donc là tu viens parce que samedi
il y a le championnat Create Your Vibe dans la région Centre-Val de Loire.
Alors, ça se passera donc à la salle Collier, c'est ça?
C'est au centre du congrès.
Au centre des congrès, carrément.
Alors, notre premier événement, c'était à la salle Collier.
Je me rappelle.
Ça fait 3 ans, je
ouais.
crois. Et on a organisé un battle international au niveau aussi. Mm-hmm. Que le gagnant a gagné un prix, un voyage pour aller au Brésil avec tout payé. Donc,
ah,
il était un mois là-bas. Il a voyagé, il a fait des échanges. Et puis, il était visiter l'ambassade française au Brésil. Là-bas, au Brésil.
Mm-hmm.
Donc, c'était notre premier événement et c'était à la salle Collier. Ouais.
Je me rappelle
T'étais
de ça.
T'étais là-bas, je crois.
J'y suis passé. Bon, moi, je ne connaissais pas le breakdance, sinon de voir de temps en temps des petits trucs sur YouTube.
C'est
et
ça.
Puis là, j'ai appris que, bon, à Vierzon, il y avait quand même des gens qui sont des bons profs, hein, aussi bien toi que ton épouse, d'ailleurs. Et donc, samedi, il se passera quoi exactement?
Alors, samedi, c'est la 12e édition de notre festival. Qui s'appelle Create Your Vibe, créer ta vibration. Parce que quand nous sommes arrivés à Vierzon, ça fait à peu près 3 ans, il n'y avait pas une activité concernée avec le hip-hop et le breakdance.
Il n'y avait rien sur le breakdance comme
activité. Non, il n'y avait rien, on n'avait pas un droit et on ne se sentait pas intégré. Donc on a pensé, au lieu de rester assis avec des bras croisés, on va créer quelque chose pour changer autour de nous et aussi pouvoir partager avec les autres les valeurs de la culture pop. Donc c'est pour ça que l'événement s'appelle Create Your Vibe. C'est pour créer, si tu n'es pas content avec ta réalité, bah, il faut créer quelque chose pour améliorer. Donc l'idée c'était ça en fait. Donc ça sera un battle.
Alors un battle, expliquons pour les petits Français qui ne comprennent rien.
Alors, ouais, alors les battles,
c'est un défi, hein, c'est
un
ça.
Un défi. Normalement, chacun danse dans un côté, un fait un passage, après l'autre le sort, après l'autre le fait un autre passage. Donc chacun son tour.
Il y a un jury?
Il y a un jury. Souvent, on a 3 jurys, 5 jurys, ça dépend de modèle.
Et vous avez beaucoup de participants, non?
Alors, nous, on a 20 participants internationaux. Non.
Ça,
là, c'est des danseurs professionnels au niveau, je parle.
Et qui viennent de où, alors?
Bah, ça vient un peu partout, là. Il y a des... Alors, il y a un qui vient de la Russie, Guatemala, Argentine, Maroc, Algérie, Brésil, Congo, quoi, un peu Venezuela. Donc on est un peu...
Ben, Vierzon devient une ville internationale. Hein. Il l'était déjà un peu, mais là, il le devient encore plus. Donc, ça sera samedi. Il y a une entrée payante. Comment ça se passe?
Alors, oui.
Parce que d'après ce que j'ai entendu dire, vous faites ça pour, au profit d'une association, c'est ça?
Oui, d'un autre.
Non, pour le cancer, non? Il n'est pas question du cancer?
En fait, on fait ça pour développer l'activité. Donc, ça ne fait pas longtemps qu'on existe, ça fait 3 ans. Donc, on a créé l'événement justement pour créer un outil pour les jeunes s'exprimer. Parce que, comme je t'ai dit avant, il n'y avait pas ça. Donc, on ne s'était pas très bien intégré. Donc, la danse a nous aidé à s'intégrer en France. Parce que vous savez, avec mon accent, je suis brésilien.
On n'avait pas remarqué.
Je
ne
suis pas français de base. Mais j'aime la France. J'adore. Et surtout Vierzon, c'était une très bonne ville.
Est-ce que les Jeux Olympiques ont développé, ont fait connaître plus le breakdance?
Ah oui, bien sûr. On était dans la télé, on était dans les stades. Franchement, à l'entrée aux Jeux Olympiques, ça nous a apporté beaucoup de lumière. J'étais là-bas aux Jeux Olympiques, j'étais invité par la Fédération Française de Danse parce que je suis référent de la région Centre-Val-de-Loire pour les Jeux Olympiques à Paris. Et c'était super.
Une belle mise en lumière de votre sport.
Oui, c'est ça. Et donc, on était invité à faire plein des interviews à la radio, à la télé. On voit aujourd'hui que le breakdance, elle était au quartier au début dans les années 80. Et aujourd'hui, on est dans le théâtre, on est dans la télé, et on est quand même dans les Jeux Olympiques. Quoi. Donc, ça montre aussi pour les jeunes qui viennent du quartier, qui si le breakdance a réussi, eux pouvons réussir aussi.
Vous donnez des cours?
C'est ça, ouais. On donne des cours à Vierzon, mardi, mercredi et vendredi. Donc c'est vraiment pour développer la discipline qu'on a créé ça. Et on a une demande de plusieurs villes. C'est pas que Vierzon qui vient. Il y a Massé, Grasse, donc il y a Genouilly, Vouzeron. Donc on a pas mal de gens autour. Qui vient prendre nos cours. Donc, créer le festival. Donc, ça sera des battles. Je n'ai pas fini d'expliquer, en fait.
Oui, vas-y, explique.
Donc, il y a les battles un contre un. Chacun fait son tour. Il faut savoir aussi que le danseur ne connaît pas la musique. Donc, c'est le DJ qui
choisit
la musique. Donc, le danseur, il est invité à construire sa passage avec une musique qu'il ne connaît pas.
Donc, il faut avoir un sens du rythme, on va dire comme ça, et de l'improvisation.
C'est ça. Et c'est la danse, mais c'est aussi le sport, parce qu'il y a le côté physique.
Ah bah, il y a un côté physique.
Évidemment, bien évidemment.
Incroyable. Enfin, moi, j'ai assisté à des battles où je me demandais comment le mec faisait pour tenir sur ses mains comme ça, à sautiller sur les bras et tout. Mais ouais. Non, mais c'est phénoménal.
C'est impressionnant.
Ouais. C'est impressionnant, c'est vraiment sportif. Même si on peut dire que c'est aussi culturel, puisqu'il y a une dimension musicale là-dedans. Donc là, on est dans quelque chose qui est encore dans une zone un peu frontière. On ne peut pas le définir trop simplement. J'aime bien aussi la pédagogie employée.
Ouais,
on n'est pas l'éducation formelle comme on y est souvent habitué. Il y a vraiment une autre façon d'apprendre. Là.
C'est ça, parce qu'en fait, le break il était développé dans les soirées au Bronx. Il a commencé là-bas. Donc, c'était ce qu'on appelle block parties. C'était un lieu abandonné où le DJ avait un système de son. Il a ramené son système dans ce lieu-là. Il a organisé des soirées. Mm-hmm. Donc là, on parle du Bronx. Le Bronx était tout un peu détruit. Oui, ou quoi. Il avait les faux partout dans les années 90. C'était un peu violent quand même. Donc, il y avait des gens aussi qui essayaient de créer quelque chose de positif. Donc, ils ont mis des sons, des systèmes de son, un peu de musique, juste pour s'amuser. Donc, tous les jeunes du quartier sont venus là-bas. Et donc, là, il a commencé à développer la danse. Et puis voilà, aujourd'hui, on est reconnu en tant que sport olympique et tout. Et le break est diffusé partout dans le monde entier, grâce à un film qui s'appelle Beach Street, dans les années 84, il était lancé et il était diffusé partout. Et avant la pédagogie, voilà. Avant, on a appris comment on a appris à danser. C'était en regardant le Beach Street, parce que, voilà, on n'avait pas de professeurs, donc ce n'était pas très connu. Donc ceux qui avaient déjà la télé et le truc pour mettre le vidéo, ouais, c'était eux qui savaient faire plus le mouvement, quoi. Donc c'était super. Un peu comme ça. Et puis après, les jeunes qui sont intéressés, ils essayaient de venir. Et puis c'était en fait des partages. Il n'y avait pas « je suis ton maître, tu dois écouter tout ce que j'ai dit ». C'était plutôt dans un partage.
Un exemple qui est donné. Donc. Mais, enfin, moi, je suis épaté parce que j'ai vu des petits jeunes là, chez toi, des gamins, des tout petits, ouais. Ils marchent à peine. Et ils commencent déjà à avoir ce sens là, du corps dans l'espace, puisqu'il y a vraiment cet aspect-là aussi. Et ouais. Tout ça sans passer par, ben, je dirais, je prends l'exemple de la musique, où il y a des écoles de musique où on apprenait le solfège pendant 3 ans avant de toucher un instrument. Et puis aujourd'hui, on en arrive à apprendre l'instrument en même temps que le solfège, et quelquefois même après. Et ça développe davantage le sens musical qu'avant, on faisait ses gammes. Je pense à Mozart qui, pendant des heures et des heures, faisait des gammes.
C'est moins protocolaire.
C'est moins, c'est oui, faire, et ouais. C'est une autre façon d'apprendre, mais c'est pas moins bon. C'est différent en tout cas.
C'est ça, c'est différent. Parce que parfois, les gens ne sont pas intéressés d'aller au cours et suivre un cours parce qu'ils font ça déjà à l'école.
Donc, ils c'est sont plus un plaisir.
C'est ça, ils sont obligés en fait d'être carrés et suivre le cours. Dans les breaks, il y a aussi la discipline. Hein. J'ai dit qu'il y a toujours. Si tu veux avoir un niveau, il faut vraiment être discipliné. Il y a autodiscipline. J'ai dit qu'il ne faut pas que s'entraîner 3 fois par semaine, c'est tous les jours. En fait, c'est un style de vie, quoi. Si les gens voulaient vraiment danser le break, c'est comme les arts martiaux. C'est un style de vie. Donc, il faut apprendre le mouvement, il faut travailler à la maison, il faut lire aussi sur les fondamentaux. Donc, il faut échanger, il faut participer au battle. Parce que, en fait, le battle, c'est quoi le battle?
C'est les concours, en fait. C'est un petit défi, oui. C'est une façon de montrer son niveau par rapport à quelqu'un d'autre.
Il y a ça aussi, le côté des compétitions, mais c'est aussi où tu peux apprendre, où tu peux échanger avec l'adversaire. Tu dis, ah, tu fais ça, bah, moi j'ai fait ça. Tu fais ça, mais j'ai fait ça. Et comme ça, on apprend. En fait, c'est une conversation avec quelqu'un. Toi, tu parles, moi, je parle, et toi, tu parles. Et comme ça, on se développe. Parce que aujourd'hui, parce que moi j'interviens partout là. J'ai été invité pour le département du chef à faire un stage au Krebs. J'ai un projet au collège Édouard Vaillant. On va faire un projet dans les lycées maintenant. Et puis au collège Albert Camus. Et je vois que les jeunes, ils ont difficulté de s'exprimer et danser devant le public.
Ah oui, la peur de le jugement de l'autre.
De regard.
Oui, du regard de l'autre.
C'est très dur le regard d'aujourd'hui de la société. Hein. Donc, ce que le break apprend à les jeunes, de se mettre sur place et d'avoir confiance en soi.
Et d'arriver à se présenter devant les autres. Qu'est-ce que t'en penses, Gilles, de tout ça, toi?
Je te vois écouter avec intérêt. Ça m'intéresse beaucoup parce que je m'aperçois que le breakdance est en train de prendre la suite de l'art dramatique.
Oui, toi qui es dans le théâtre,
voilà.
tu comprends. Dire
que la grande difficulté de l'éducation nationale, c'est qu'elle n'apprend, elle apprend à lire, écrire, compter, elle n'apprend pas à parler.
Ouais, l'éloquence.
Et la parole est extrêmement importante, surtout dans nos sociétés. On est en train de parler dans un micro là actuellement, vous voyez, et les gens vous écoutent. Donc l'art dramatique est intervenu dans les établissements scolaires pour apprendre aux élèves à s'exprimer, à s'écouter et à improviser.
C'est ça.
Relaxation, respiration, improvisation, c'est les 3 règles d'or de l'art dramatique au départ. Et je m'aperçois que le breakdance est en train de prendre la suite et de marcher dans les mêmes pas. Et c'est très bien.
C'est très intéressant parce que le tout début du breakdance, il y avait beaucoup de cinéma. Les films chinois de Kung Fu et tout, c'était diffusé un peu partout. Et c'est vrai que ça nous apprend à s'exprimer. Et les jeunes, ils regardaient les films. Donc, ils ont pris des mouvements, des techniques et tout ça dans les films. Donc, c'est tout à voir aussi le breakdance avec le cinéma, avec le théâtre. Parce qu'il y a aussi des gestes.
Une mise en scène. Hein.
Une mise en scène. Il y a aussi, comme on dit, le caractère, le personnage. la personne, elle n'est plus elle-même.
L'interprète, quoi. Il interprète.
Parce qu'on a notre nom. On a pas que notre prénom. Par exemple, les danseurs sont connus comme B-boys et B-girls. Donc, B-boys, c'est les garçons. Et B-girls, c'est les filles. Oui. Donc, B-girl, on peut choisir un homme. Par exemple, Hurricane. Un B-girl, je ne sais pas. Un B-girl, Habit. Donc, il y a souvent, on a souvent un nom. Un surnom qu'on utilise. Donc, c'est tout à voir avec le théâtre et l'interprétation, tout à fait.
Très bien. Donc, oui, c'est intéressant. Bah, tu vois, comme quoi on apprend. On est tout le temps en train d'apprendre. D'ailleurs, le jour où on arrête d'apprendre, je pense qu'on devient vieux. Donc, on est mort. Peut-être pas. On peut devenir vieux avant de mourir, même, d'ailleurs. Alors,
on rappelle votre événement, du coup.
Alors, oui, rappelle-nous. C'est donc samedi.
Sur le samedi 19 octobre, dès 19h. À 21h, il y aura aussi Scott Lyon, le frère de Joe Star, NTM, qui viendra animer notre
événement. Joe Star, son père
Son frère.
Ouais. Son frère.
C'est lui qui a chanté.
Au centre des congrès.
Et aussi Sidney de Teuil, il ne faut pas oublier, parce que Sidney, c'était le premier noir à la télé française. C'est lui qui a présenté l'émission Échappé. Donc lui il va venir aussi.
D'accord, il y aura quand même des personnalités.
Alors la billetterie sur place ou on peut réserver?
Faut réserver la billetterie. Vous pouvez acheter sur place aussi, mais sur place ça va coûter plus cher. C'est 15€ sur place. Et si vous achetez avant, c'est 8€.
Et donc ça, il faut. Où est-ce qu'on peut acheter ça?
Il faut juste sur notre page de Facebook.
Ah, c'est page Facebook, d'accord.
Breaking Journée, il y aura l'événement et vous tapez sur les liens. Et vous pouvez acheter le billet.
Les billets.
Breaking Journey. Donc, ça sera sur Facebook, Breaking Journey. Et donc là, vous pouvez acheter vos billets à l'avance. Merci. Donc, on va.
Merci infiniment.
J'essaierai de passer voir ça samedi.
Avec
et
plaisir.
Puis, voilà. Puis peut-être Gilles aussi, qui apprendra un peu plus sur le.
Je suis déjà le théâtre.
Je suis curieuse de voir Gilles faire du breakdance.
Oui, ça m'atteindrait beaucoup. Oui.
Un petit peu tard, pour se lancer là-dedans. Mais on ne sait jamais.
C'est jamais
on
tard,
sait jamais,
je
on
pense.
Sait jamais, oui.
Bon, un petit peu de musique encore, une dernière musique, et puis après, on va...
Une petite info locale.
Et après, on passera aux infos locales. Donc, John Denver. Tiens, parce que, Jean-François n'est pas là ce matin, il est pris ailleurs, mais il aime bien toujours que je lui passe au moins un morceau de country, donc on va la voir. Anis Song.
You fill up my senses like a night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. Fill up my senses, come fill me again. Come, let me love you, let me give my life to you, let me drown in your laughter, let me die in your arms, let me lay beside you, let me always be with you. Come, let me love you. Come, love me. Senses like a night in the forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again.
Bon, c'était John Denver, donc là on termine l'émission avec notre cher Joël, qui va nous parler un peu de ce qui se passe dans le coin.
Alors, on va partir à Selles-Saint-Denis, à côté de Salbris. Vendredi soir, il y a le vernissage d'une exposition. C'est le deuxième salon des arts contemporains à la salle des fêtes de Selles-Saint-Denis. C'est les 19 et 20 octobre, le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h, avec des photographes, des peintres, et des artistes locaux, donc à la salle des fêtes de Selles-Saint-Denis, samedi et dimanche. Et on revient sur Vierzon, samedi à partir de 16h, il y a une exposition des artistes de la Palette du Monde, ça dure toute la semaine prochaine, et c'est à partir du 19 à 16h au Théâtre MacNab.
Voilà. Alors, donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre puisque tiens, bonjour, notre cher animateur, normalement, ce n'est pas mon concurrent, parce que c'est lui qui commence la semaine avec Tatouin fait le lien, David.
Bonjour tout le monde, bonjour chers amis auditeurs. J'ai l'impression à cette heure-ci de prendre le micro d'avoir fait une grasse matinée, mais bon. Rendez-vous en tout cas, je vous annonce le programme de la semaine prochaine, à partir de lundi, puisque lundi, nous parlerons encore quinzaine du goût avec l'écopole La Chaponnière, voilà, qui organise divers événements, donc tout au long de la semaine, soyez là, soyez présents avec votre oreille. Lundi à partir de 8h30, et on parlera musique, puisque se profile avant la fin du mois le festival de la guitare d'Issoudun, mardi. Oui. Rached et Slimane, on partira à Mairie-sur-Cher, puisqu'il se passe plein de choses à Mairie, donc il nous dira tout. Voilà, j'ai déjà préparé mes questions.
Hein. Tu as déjà le moyen de le faire parler.
et mercredi, Joël sera à mes côtés dans l'émission. Et nous recevrons par téléphone Hugo Aguiar, puisqu'il y a un projet qui est en train de se monter.
Une association de médecins, voilà.
Une association de médecins. Oui,
médecins et paramédicales.
Arriver à trouver du monde, des médecins aujourd'hui, ça commence à être problématique.
Bélénos, ça s'appelle. Voilà.
Alors bon, je veux vous rappeler aussi que sur cette radio, vendredi soir, il y aura DJ Fletcher et Bianca qui seront de retour et qui vont faire donc leur émission avec un mix spécial années 80. Alors ça sera à partir de... ils n'ont pas mis l'heure.
En soirée. Donc,
ça sera en soirée, hein, de toute manière, vendredi. Vendredi des 18 octobre, hein, c'est bien ça. On est d'accord? Oui, tu es d'accord avec moi
Mais oui.
Je demandais à David parce que là, j'étais un peu perdu dans mes trucs. Je viens de retrouver leur annonce. Donc, voilà tout ce qui se passe. Je vous remercie à tous d'être venus. Gilles Magréo, merci d'être venu et d'avoir parlé de ta passion, parce que c'est vrai que tu avais l'air passionné par ton bouquin.
Toujours passionné, Gilles.
Mathéus, pareil. Moi, j'aime bien les gens passionnés. Mmh. Mathéus était passionné ce matin aussi. Il nous a parlé de ce qu'il va faire, de tout ce boulot qui se fait ici, qui rend la breakdance beaucoup plus familière à tout le monde. Merci pour ça.
J'ai l'heure de DJ Fletcher, ça arrive presque, c'est 21h.
21h sur Radio Tintouin, vendredi 18 octobre. Voilà, et merci Joël.
Merci Jean-Luc, merci à
David
nos invités.
D'être venu en fin d'émission pour nous apporter le soutien nécessaire. Et puis donc, cette émission sera demain matin.
Ce vendredi, rediff.
Le vendredi.
Ouais.
Grâce à David.
Et en podcast, là, bientôt, disponible.
Voilà, bientôt. Et puis donc, à la semaine prochaine pour moi, jeudi prochain. Mais à demain matin, pour ceux qui veulent réécouter cette émission. Alors, un petit jingle pour terminer. On va prendre le petit jingle coin-coin, hein, parce que c'est quand même le meilleur.
Radio Tintouin,
la radio qui fait le lien, qui fait du bien,
et parfois qui fait
coin-coin.